Et les matins débutent avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Les victimes avaient entre 21 et 44 ans, 8 hommes et une femme, turcs, bosniens, bulgares. Les 9 personnes tuées dans les fusillades de mercredi soir en Allemagne ont été visées par ce qui suit de l'immigration. Habitante à Hanau, cette ville multiculturelle près de Francfort, où nous serons dans un instant, l'Allemagne à l'heure du recueillement. Le président appelle à l'unité du pays contre la haine.
En marge d'un sommet européen qui peine à boucler le futur budget des 27, Angela Merkel et Emmanuel Macron ont dit toute leur inquiétude pour la Syrie. La situation humanitaire catastrophique dans la province d'Idlib.
Une conversation téléphonique avec Vladimir Poutine que les dirigeants allemands et français veulent rencontrer avec le président turc pour tenter de trouver une solution politique à la crise.
Et puis à la une encore, les Iraniens ont commencé à voter pour élire un nouveau parlement. Les conservateurs partent favoris.
Après l'écart de milliers de candidats aux législatives, les États-Unis viennent d'annoncer de nouvelles sanctions contre des responsables iraniens. Et puis en France, alors que les opposants à la réforme des retraites ont peiné hier à rassembler dans les manifestations, poursuite du blocage et des invectives à l'Assemblée nationale. Reportage dans ce journal.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, on va revenir sur la situation en Allemagne. Quel lien entre l'attaque de Hanau et l'extrême droite en Allemagne? On posera la question à Nicolas Lebourg, il est historien spécialiste de l'extrême droite.
On en sait un peu plus sur le profil de l'auteur des fusillades qui a tué 9 personnes mercredi soir à Hanau près de Francfort, visant des bars à chicha fréquentés notamment par des personnes étrangères ou d'origine étrangère. Il s'agit d'un Allemand de 43 ans, paranoïaque et raciste, convaincu d'une supériorité de la race blanche. Un homme plutôt isolé qui vivait chez sa mère, qu'il a tué d'ailleurs avant de se suicider. Un homme paranoïaque qui, selon les premiers éléments de l'enquête, se sentait persécuté, surveillé par une mystérieuse organisation secrète. Sensible encore aux théories conspirationnistes qu'il développait sur son site internet dans plusieurs vidéos. Il appelait, je cite, à anéantir la population d'au moins 24 pays, d'Israël, du Maghreb, du Moyen-Orient ou encore d'Asie du Sud. Face à ce terrorisme d'extrême droite qui menace une fois de plus l'Allemagne, le président Frank-Walter Steinmeier s'est recueilli hier à Hanau devant les 2 bars à chicha visés par les attaques de cette attaque raciste.
Ça s'appelle le terrorisme. À travers la violence, la mort, ils répandent la terreur et nous font craindre de nous éloigner les uns des autres. Et aujourd'hui, c'est l'heure où nous devons montrer que nous sommes une société solidaire, que nous ne nous laissons pas intimider, que nous ne nous éloignons pas les uns des autres. Nous sommes en deuil. Nous sommes en deuil et en étant là, nous voyons que nous sommes unis dans notre douleur, unis contre la haine, le racisme et la violence.
Le président allemand Frank-Walter Steinmeier hier à Hanau près de Francfort, cette ville où plusieurs milliers de personnes ont donc déposé des fleurs, des dessins, des bougies à la mémoire des victimes des fusillades de mercredi soir. Le reportage de notre envoyé spécial Ludovic Pietenu.
Le racisme est partout, crie cet homme qui interpelle le président allemand. Frank-Walter Steinmeier vient de terminer son discours devant 5000 personnes rassemblées sur cette place, selon la police. Il y a là les familles des victimes. Elles tiennent le portrait de leurs proches disparus entre les mains. Régulièrement, les gens s'étreignent et se soutiennent. Ingrid explique qu'elle ne se sent pas bien, qu'elle a du mal à comprendre ce qui s'est passé.
Ich kann sowas überhaupt nicht verstehen.
Comment un homme peut-il avoir autant de haine? Chacun dépose une bougie, des fleurs ou un dessin, comme ces 2 enfants venus avec leur père, Heikel, arrivé de Tunisie il y a 20 ans.
Vraiment, c'est horrible. Des choses comme ça, vraiment, c'est de la folie. On ne trouve pas des mots.
Vous avez pensé que ça aurait pu être vous?
Oui, bien sûr. 15 minutes. J'étais à ce moment-là et j'ai parti.
Heikel était dans le premier bar à chicha attaqué mercredi soir.
J'ai parti, après j'ai entendu qu'est-ce qui s'est passé. C'est horrible, vraiment horrible.
Cette place du marché se vide peu à peu. Apparaît un vieil homme, le dos courbé. Il peine à se relever après avoir déposé sa bougie au sol. C'est très mal. Ce n'était que des jeunes gens, ne cesse de répéter cet homme.
Ludovic Piétenu, envoyé spécial de France Culture à Hanau, près de Francfort. L'Allemagne à l'heure du recueillement. Dans une cinquantaine de villes, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées hier soir contre la haine à Hambourg et Berlin, la capitale allemande, où une minute de silence a été observée à l'ouverture de la 70e Berlinale. La chancelière allemande Angela Merkel a, elle, aussi dénoncé le poison du racisme, faisant le lien entre ces fusillades et d'autres attentats d'extrême droite commis depuis 20 ans en Allemagne. Angela Merkel qui participait hier au début des discussions par ailleurs pour tenter de boucler le budget de l'Union européenne post-Brexit. Négociations dans l'impasse pour l'instant. L'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, l'Autriche veulent davantage de moyens pour les nouvelles priorités de l'UE, ambition écologique, numérique, dans la recherche également, quitte à baisser les politiques plus traditionnelles comme la PAC, ce que refuse la France. Paris et Berlin qui parlent d'une même voix dans un autre dossier, celui de la Syrie. Emmanuel Macron et Angela Merkel se sont entretenus par téléphone hier avec le président russe Vladimir Poutine pour lui demander d'aider à faire taire les armes dans la région d'Idlib, dernier bastion du nord-ouest de la Syrie où se trouvent les opposants à Bachar el-Assad. 900 000 personnes ont été poussées à l'exode à cause de la violence des combats. Une situation humanitaire catastrophique sans précédent, s'alarme Jean-Dominique Baudard, coordinateur de l'ONG CARE.
La situation est cauchemardesque, hein. Cela dépasse l'entendement. C'est la pire crise humanitaire qu'a vécu la Syrie. Pourtant, la Syrie est elle-même une des pires crises de tous les temps. 900 000 personnes qui sont déplacées actuellement. Ça représente 700 000 femmes et enfants. Donc, pour ajouter à toutes ces souffrances, ce déplacement a lieu au pire moment de l'année. L'hiver dans le nord-ouest de la Syrie est particulièrement rude et pluvieux. En plus de tout cela, ces populations subissent les bombardements, n'ont plus accès aux services de base, que ce soit les hôpitaux, les écoles. Donc, faut vraiment s'imaginer la détresse psychologique et matérielle de ces familles qui, pour beaucoup d'entre elles, ont déjà été déplacées plusieurs fois, hein, depuis 2011. Les endroits où elles arrivent déjà, dans les camps, dans les mosquées, les écoles sont déjà surpeuplées, l'espace vient à manquer en quelque sorte. Et les derniers chiffres qu'on a, c'est qu'il y a 50 000 personnes qui dorment à l'air libre. Et je vous dis encore une fois, de mémoire d'une humanitaire, on n'a jamais vu un déplacement d'une telle ampleur, d'une telle soudaineté.
Jean-Dominique Baudard, coordinateur de l'ONG CARE, il répondait à Nathanaël Charbonnier. 52 nouveaux cas de Covid-19 recensés ce matin en Corée du Sud, 156 malades au total, faisant de la Corée le deuxième pays le plus touché au monde par le coronavirus après la Chine. Un avion rapatriant 28 Français et 36 ressortissants d'autres pays de l'Union européenne a décollé ce matin de Wuhan, le foyer de l'épidémie en Chine. Le coronavirus qui pourrait entraîner un manque à gagner total de près de 30 milliards de dollars pour les compagnies aériennes cette année. C'est ce qu'a estimé l'Association internationale du transport aérien qui redoute la première baisse mondiale des réservations depuis 2008.
7h07 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Les bureaux de vote ont rouvert ce matin à travers l'Iran pour des élections législatives où les conservateurs font figure de favoris.
Portés par un ressentiment populaire contre le président modéré Hassan Rouhani, colère alimentée entre autres par la crise économique, la participation est l'un des gros enjeux de ce scrutin qui se tient dans un contexte tendu également avec les États-Unis. Les précisions à Téhéran de notre envoyé spécial Valérie Crova.
Le camp conservateur devrait sortir renforcé de ces élections législatives. Le gouvernement d'Hassan Rouhani a vu sa cote de confiance s'effriter après le rétablissement des sanctions américaines et plus récemment après l'accident de l'avion de ligne d'Ukraine Airlines. Les autorités iraniennes ont attendu 3 jours avant de reconnaître qu'il avait été abattu par erreur. Le scénario d'une victoire des conservateurs s'est consolidé après l'invalidation de près de la moitié des candidats réformateurs et modérés par le Conseil des gardiens de la Constitution. En représailles, les États-Unis ont annoncé hier des sanctions financières contre 5 responsables de cet organe dominé par les ultra-conservateurs. La clé du scrutin reste la participation. L'abstention profite généralement aux candidats proches du guide suprême qui a appelé ses concitoyens à voter avec enthousiasme. Pour Ali Khamenei, une forte participation électorale est un gage de légitimité face à ceux qu'il qualifie d'ennemis de l'Iran, en particulier les États-Unis.
Valérie Crovin, envoyée spéciale de France Culture en Iran. Il y a un an, le 22 février 2019, un mouvement inattendu dans une Algérie réputée résignée surgissait, le Irak, mouvement de protestation populaire massif et inédit donc, des Algériens vent debout contre la volonté annoncée du président Bouteflika de briguer un cinquième mandat lors de la présidentielle qui était alors prévue en avril cette année. Des manifestations sont prévues aujourd'hui. On y revient dans le journal de 7h30. Vous entendrez des Algériens qui refusent de baisser les armes et qui demandent un changement plus profond du système politique en Algérie depuis le départ du président Bouteflika. En France, les manifestations contre la réforme des retraites ont peiné à rassembler en pleine vacances scolaires 92 000 manifestants un peu partout en France, selon le ministère de l'Intérieur. Et dans l'hémicycle, les opposants à la réforme des retraites ont continué leur combat. Jean-Luc Mélenchon accusant le gouvernement de préparer un recours au 49-3. Comment l'exécutif pourrait-il s'en sortir autrement au vu des débats hier soir encore dans l'hémicycle? Le reportage de Maxime Deps.
S'il vous plaît.
Hier, le président de séance remplaçant Richard Ferrand est rentré chez lui fatigué. Brigitte Bourguignon, députée En Marche, exaspérée.
Quand on arrêtera les invectives, les noms d'oiseaux, peut-être pourra-t-on enfin parler du texte.
Franchement, si c'est pour dire la même chose, ça ne sert à rien, on a bien compris.
C'est qu'encore une fois, les débats ont traîné et traîné encore.
Soyons clairs, nous ne sommes pas là pour co-construire avec vous un texte.
Le député La France Insoumise, Adrien Quatennens.
Nous sommes là pour représenter deux mots d'ordre majoritaires dans le pays selon les enquêtes d'opinion, à savoir le retrait ou le référendum. Je veux vous rassurer là-dessus.
Les députés de l'opposition, accusés de ralentir les débats, mais qui reprochent, eux, à ceux de la majorité, de couvrir leurs interventions afin de rendre le débat inaudible, faisant sortir de leur gond certains d'entre eux, comme le député du Gers, Jean-René Cazeneuve.
Qui veut paralyser nos institutions? C'est vous qui, par vos amendements, vos sous-amendements, créez la confusion.
Dans cette cacophonie, François Ruffin propose alors sa solution.
Nous sommes dans une ornière. Il faut se donner le temps. Suspendons les débats jusqu'au municipal. Je suis noté. Convaincu que les oppositions sont prêtes à faire un travail tout à fait constructif.
Merci. À défaut de construction, l'heure était hier soir encore, on l'aura compris, au surplace, comme une impasse dans laquelle 577 députés semblent continuer à s'engouffrer.
On va essayer de retrouver le fil de nos débats.
Et de leur côté, les syndicats opposés à la réforme des retraites ont lancé un nouvel appel à la mobilisation pour le 31 mars prochain. Secoué depuis 3 semaines par une accumulation sans précédent de révélations de cas de violences sexuelles, le sport français pose les premières bases d'une mobilisation pour lutter contre tous ces abus lors d'une convention nationale qui commence aujourd'hui à Paris. On y revient dans le journal de 7h30. Carlos Ghosn affronte son ancien employeur Renault, aujourd'hui par un avocat interposé, pour réclamer une indemnité de départ à la retraite de 250 000 euros. Audience devant le conseil de prud'homme de Boulogne-Billancourt aujourd'hui. Le temps de ce vendredi 20 février, de plus en plus ensoleillé au fil des heures, au meilleur de la journée. Il fera entre 8 et 13 degrés sur les deux tiers nord du pays. 11 à 18, plus au sud, Guillaume Herner.
Merci Catherine Dutu.